Bonjour. Alors je vais répéter, bonjour.
Bonjour Daniel.
Alors voilà. Ça fait longtemps que j'étais plus là, je ne sais plus comment on fait une prédication en fait. En tout cas, merci Seigneur pour ce matin et pour tout ce que nous avons déjà pu recevoir de lui. N'est-ce pas? Croyez-moi, c'est enrichissant que d'avoir ces témoignages, cet apport de la part de l'Assemblée. C'est ce qui édifie, n'est-ce pas, le corps de Christ. Et les dons sont multiples et les façons de voir et de comprendre les choses et nos histoires sont différentes et on n'est pas des robots tous fabriqués de la même façon. Le Seigneur a des méthodes et des façons d'agir avec chacun d'entre nous qui sont personnalisées. Lorsque j'étudiais la pédagogie, on parlait de pédagogie personnalisée. Eh bien, ça me faisait vraiment penser à ce que le Seigneur sait faire en ce qui nous concerne, et ce n'est pas les hommes qui ont découvert ça, c'est Dieu qui l'a inventé bien avant tout le monde. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'étais assis tout au fond là-bas, donc avec Brigitte, je me suis aligné sur Paul et Sophie. Et je sais, vous n'êtes pas au courant, mais en fait, c'est rangé par rangée, c'est-à-dire que habituellement, j'étais assis là, donc maintenant, je suis derrière. Donc, bientôt, il va falloir que les rangées de devant aille derrière, n'est-ce pas, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on fasse un roulement, n'est-ce pas. Ce qui est très rigolo, en fait, c'est de voir que les gens sont toujours assis à peu près aux mêmes places. C'est intéressant, parce que d'être derrière, c'est merveilleux, parce que je ne réalisais pas, en fait, je comprends maintenant pourquoi Paul se mettait derrière. C'est que derrière, on voit tout. Quand on est devant ici, on ne voit rien. En fait, tout se passe dans votre dos. N'est-ce pas? Voilà, c'est les curieux qui vont derrière. Tu vois. Donc, quand on se met derrière, on voit tout. On voit les gens qui arrivent en retard. On voit les gens qui ont du mal à s'asseoir alors qu'il est déjà 10 et que voilà, ça discute encore et puis jusqu'au dernier moment et voilà. Donc, on voit toutes ces interactions qui se font et on voit les gens comment ils sont habillés, n'est-ce pas? On voit les tenues, on voit, oula, celui-là aujourd'hui, il est habillé smart, hein, ou alors elle, oh là là, elle est habillée très simplement aujourd'hui. Et les gens sont là, voilà, bonjour, regardez comme je suis simple, regardez comme je suis smart. N'est-ce pas? Nous sommes des êtres sociaux. Hommes et femmes, nous avons été créés pour entrer en relation les uns avec les autres, parfois en compétition, parfois pour vivre en harmonie. Mais en ce qui concerne nos décisions personnelles, eh bien ces décisions se font hors du regard des autres, justement. On peut être assis n'importe où dans la salle. Les décisions personnelles se font à l'écart et elles se font hors du regard des personnes, si ce n'est notre propre regard. N'est-ce pas? Pour le croyant, comme pour n'importe qui, ce fonctionnement reste celui qui l'anime. Mais le croyant vit cette façon-là, ces choses-là, dans une autre dimension. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et quelque part, nous-mêmes, nous ne sommes pas de ce monde. Et dans nos relations, nous sommes là les dimanches, c'est parce que nous avons choisi d'avoir un autre type de relation avec les personnes. Nous ne sortons plus le samedi soir, n'est-ce pas? Parce que si nous sortions le samedi soir, nous ne serions pas frais le dimanche matin. Mais ce n'est pas ça la raison, hein. Ce n'est pas pour être à l'église que vous ne sortez plus le samedi soir. Non, c'est parce que justement nous avons changé de dimension de vie. Nous avons changé de royaume. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous avons un nouveau statut. Nous ne sommes plus les enfants du diable, mais les enfants de Dieu. La nouvelle naissance nous donne la possibilité, par l'Esprit de Dieu, de recommencer dans la vie et de renouveler complètement notre monde intérieur. C'est ce que Thiago, n'est-ce pas, nous partageait. C'est que quelque part, il y a un nouveau départ, une situation jamais vécue auparavant. Quelque chose qui nous a transformés de telle sorte à ce que nous découvrons un tout autre monde. Le résultat, c'est que nous sommes de nouvelles personnes. C'est que nous sommes des personnes avec une nouvelle singularité, on va dire. Et nos choix moraux ou éthiques sont modifiés complètement. Et la notion de ce qui est juste et injuste, bon ou pas bon, est guidée désormais par notre nouvelle nature. Et donc, ce n'est pas seulement notre regard sur l'extérieur qui va changer, mais aussi notre regard sur ce qui est intérieur. Et lorsque nous nous posons la question, mais dans certaines situations, n'est-ce pas ? Nous sommes souvent dans ces situations-là. Que dois-je faire dans cette situation ? Qu'est-ce qui est bon de faire ? Ce ne sont pas, en dernière instance, les avis de nos proches ou de nos conseillers habituels, ni même les commandements divins qui vont peser sur notre décision. Ce qui sera décisif, c'est le fait que nous soyons en accord avec nous-mêmes. La parole nous rappelle ce principe, n'est-ce pas, qui est un principe immuable. C'est que l'ensemble de nos activités, l'ensemble des choses que nous disons, que nous pensons, est déclenché de l'intérieur de nous. Le verset qui dit ça, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ou que l'homme s'exprime, ou que les actions s'exprime. Mais qu'est-ce que l'abondance du cœur ? Si ce n'est une interaction solitaire que j'entretiens avec moi-même. N'est-ce pas ? Ce discours intérieur, ces choses que nous nous disons, ces questions que nous nous posons et ces réponses que nous nous donnons. Je me pose une question et j'y réponds de la meilleure manière qui soit, afin de garder mon équilibre personnel. La solitude, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Il y a plusieurs types de solitude. Il y a plusieurs façons d'être seul. Et ces différentes façons influent sur notre activité intellectuelle et sur nos pensées. Certains, et l'expriment souvent, ou parfois, ils souffrent d'être seuls. À plusieurs occasions, j'ai remarqué que lorsqu'on parle ou qu'on prêche, en ce qui concerne le couple ou les situations homme-femme, eh bien les gens qui sont seuls, célibataires, qui n'ont jamais trouvé de conjoint, se sentent mal et souffrent de cette solitude et parfois l'expriment ensuite en disant « il faudrait préciser lorsque tu parles qu'il y a des gens qui ne sont pas concernés par cela ou concernés différemment ». Et donc on voit chez eux cette souffrance qui est à fleur et qu'il est nécessaire de prendre en compte, n'est-ce pas ? Mais en réalité, il est des formes d'être seul qui sont plus profitables que d'autres. La solitude, c'est un lieu de rencontre entre moi et moi. C'est ça la solitude, n'est-ce pas? On n'est pas seul, on n'est pas un sac de viande posé quelque part, n'est-ce pas? On est seul avec soi-même. Et on est en interaction avec ce soi-même. Mais la solitude, ça n'est pas la même chose que de se sentir seul ou de se sentir esselé ou abandonné. Et la solitude, c'est encore différent que d'être isolé. Parce que l'isolement, ça peut être un choix ou quelque chose que l'on subit. Lorsque les chrétiens persécutés sont mis en prison, eh bien, ils n'ont pas choisi, n'est-ce pas, d'être isolés. Mais on peut, à titre individuel, lorsqu'on est libre, et c'est là une des grandes marques de liberté, c'est que nous avons le choix de nous isoler, justement. Il y a donc plusieurs façons d'être seul. Et afin de bien comprendre de quoi il s'agit, j'aimerais que nous prenions certains exemples dans la parole de Dieu qui vont nous éclairer sur la réalité de ce que peut-être certains d'entre nous vivons ou expérimentons. Dans Genèse, chapitre 4, et au verset 3, nous lisons l'histoire de Caïn et d'Abel. On connaît cette histoire par cœur, fait partie des histoires de l'école du dimanche. Mais nous allons la lire et la regarder sous un autre angle. Et nous allons essayer de nous mettre à la place de Caïn, en tout cas essayer de comprendre comment Caïn fonctionnait. Verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Caïn était le frère d'Abel. Un jour, il lui vient l'idée d'offrir, de faire une offrande à Dieu. Caïn n'était pas un mauvais garçon. Ce n'était pas un gangster. Il n'avait pas été mal éduqué. Il avait été éduqué exactement comme Abel, avec des parents qui l'ont aimé de la même manière. Le problème de Caïn, c'est qu'il avait une fausse conception de Dieu. Il pensait que l'action qu'il allait faire pour Dieu, c'est-à-dire ce sacrifice, n'est-ce pas, c'est lui qui a initié l'offrande. Cette offrande qu'il allait faire à Dieu, eh bien, il pensait que cela allait le rendre agréable à Dieu. Il pensait que Dieu allait être sensible à ce que Caïn allait lui offrir. Or, Dieu est resté insensible à cette action que Caïn a mis en œuvre. Caïn est le type même de l'homme esseulé, de l'homme qui se sent abandonné. Du fait de sa déception, eh bien, Caïn a cessé de penser à Dieu. Il a cessé de considérer Dieu comme faisant partie de sa vie. Et du coup, il s'est retrouvé isolé et démuni face au choix moral qu'il allait devoir faire. C'est pas que tout à coup, Caïn s'est trouvé avec une pulsion de meurtre. C'est que Caïn, en abandonnant Dieu, s'est retrouvé abandonné. Il s'est retrouvé seul. Dans sa colère, il ignorait tous et tout le monde. Il n'y avait en lui-même plus rien ni personne pour lui dire ce qu'était une attitude équilibrée et convenable dans la situation qui était la sienne. N'est-ce pas ce dialogue silencieux qui s'exécute dans les pensées avait disparu pour faire place à un grand vide, à une béance, à un trou. La déception et la colère avaient poussé Caïn à se désolidariser de tout ce qui pourrait l'arrêter dans sa course au meurtre. Nombreux sont les hommes et les femmes qui recherchent l'approbation de Dieu au travers de leurs actions. Et quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas manipuler Dieu, ils pensent que Dieu ne les aime pas. Et ils le rejettent. Ils le mettent en dehors de leur vie et de leur pensée. Bien souvent, ils adoptent des positions de retrait et se coupent de la relation avec les autres. Ce n'est pas que ces personnes cherchent à vivre sans la compagnie des autres. En réalité, ils recherchent désespérément le contact. Et ils ont un besoin impérieux des autres, parce qu'ils se nourrissent de leur regard et de leur intérêt. Mais ils sont incapables de nouer de véritables contacts. Lorsqu'il y a rupture, ils vivent l'abandon. Ils vivent l'ennui absolu qui peut les amener jusqu'à la dépression, voire le suicide. En réalité, même au milieu d'une foule, ces personnes sont les plus seules au monde. Pour Caïn, c'est le rapport à l'autre, n'est-ce pas, qui s'est altéré. L'équilibre moral a disparu et Caïn s'est retrouvé à devenir le meurtrier de son frère. Dieu a assisté à cette rupture. Il a vu comment Caïn se transformait, il l'a vu sur son visage même. Et il a usé de pédagogie, justement, pour l'en dissuader, pour dissuader Caïn d'accomplir l'irréparable. Il lui a dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage ou tu retrouveras ta dignité. Hein, on peut le traduire comme ça. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Dieu a averti Caïn du danger et il lui donne une solution, le bien agir. Bien agir pour une personne qui se sent esseulée, abandonnée, c'est revenir à Dieu. C'est rechercher, recoller avec ce dialogue intérieur avec Dieu qui est la source de toutes les bonnes pensées. On revient à Dieu par la repentance, en demandant pardon de l'avoir abandonné, en demandant pardon d'avoir voulu briller devant lui pour essayer de lui soutirer ses bénédictions. Et Dieu nous réintégrera dans notre dignité. Il y a donc un autre type d'être seul, une autre forme d'être seul, qui est celle de l'isolement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, le caractère qui nous parle de cet isolement, on le trouve, alors il y en a plusieurs, mais celui que j'ai choisi se trouve dans Matthieu au chapitre 19. Et au verset 16. C'est l'histoire de ce jeune homme qui vient pour voir Jésus. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Certains individus sont bourrés de talents. Cependant, ils sont incertains dans leur vie. Ils ont besoin d'être rassurés. Alors, il décide d'aller rendre visite à des personnes remplies de sagesse pour obtenir d'elles des réponses et gagner en assurance. Une autre façon d'être seul, n'est-ce pas, c'est de s'isoler pour travailler. C'est-à-dire n'être là pour personne, que pour l'objectif que l'on s'est fixé. Je ne suis là pour ni mes conjoints, ni pour moi-même, ni mon conjoint, pardon, ni les autres. Je suis là pour personne. Sauf pour l'objectif que je me suis assigné. Qu'il s'agisse des choses du monde ou qu'il s'agisse d'un travail que l'on dit faire pour Dieu. Merci, Emmanuel. C'est enregistré, alors. N'est-ce pas, ce jeune homme est un modèle de concentration et de persévérance. Il a passé sa jeune vie à s'isoler de tout ce qui pourrait le divertir. Et il avait pour résultat une maîtrise quasi parfaite de la loi. Et il avait aussi parfaitement réussi dans les affaires, puisqu'il était très riche. Il y a des personnes qui passent leur vie à s'isoler pour réussir. C'est parfois nécessaire de faire silence, n'est-ce pas, pour lire, pour apprendre. On a besoin de se concentrer lorsqu'on lit la parole de Dieu. C'est bien, n'est-ce pas, de se mettre à l'isolement, de se mettre à l'écart et de se faire une sorte de barrière qui va nous permettre de bien comprendre ce que dit la parole de Dieu. Mais il y en a, en faisant cela, ce qu'ils recherchent, c'est plus à se protéger de la présence des autres. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'enfuient sous prétexte de créativité ou de spiritualité. Or, concernant ce jeune homme, Jésus avait vu en lui un grand besoin de réalité. Dans sa quête d'absolu, il avait fui la société pour ne pas être contaminé par elle, pensant de la sorte qu'il se garderait pur. Et il était assez fier de lui, finalement. Il avait réussi à accomplir cela jusque-là. Et lorsqu'il aborde Jésus, n'est-ce pas, le jeune homme pense qu'en Jésus, il va trouver un interlocuteur digne de lui, quelqu'un qui est digne d'avoir un entretien avec ce jeune homme qui a déjà si bien réussi. Quelqu'un qui allait pouvoir soutenir une discussion technique sur la notion de la perfection dans la foi juive. Or, Jésus fait quelque chose qui le déçoit. D'abord, il ne fait pas cas de la grande activité de cet homme. Et ensuite, il cherche à le faire sortir de sa tour d'ivoire pour l'amener à faire face à la réalité. Ce que Jésus lui dit, c'est que les observations strictes des commandements ne lui donneront pas la paix. Il cherche, n'est-ce pas, à le sortir de l'isolement de la pratique religieuse pour le faire entrer dans une solitude autrement plus rémunératrice. En substance, ce que Jésus dit à cet homme, c'est « Débarrasse-toi du fardeau de tes biens et de ton ascétisme religieux pour rentrer dans le repos de la relation avec moi. » Jésus l'invite à le recevoir comme son alter ego, comme son ami, comme son moi à l'intérieur. Il lui dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. En d'autres termes, c'est la nature de ton alter ego, ton autre moi, que tu rencontres dans ta solitude et le dialogue que tu as avec lui qui va déterminer ton système d'action. Mais voilà, la logique de ce jeune homme, c'était de faire un lien entre la fortune et la loi. La fortune, la richesse, mais aussi la fortune spirituelle. Pour lui, l'un conditionnait l'autre. Il y a malheureusement aujourd'hui aussi des chrétiens qui croient à cette pensée, que le niveau de leur bien-être spirituel et matériel est proportionnel à leur obéissance à Dieu. Et donc, quand ils obéissent à Dieu, c'est pour de mauvaises raisons. C'est bien d'obéir à Dieu. Si on veut obéir à Dieu parce qu'on pense qu'en le faisant, on va obtenir un bienfait spirituel, on obéit pour de mauvaises raisons. Christ nous invite à sortir de cet isolement mental qui est préjudiciable à une vie de liberté spirituelle. Il veut nous inviter à partager sa sainte solitude. Jésus est le type de l'homme solitaire. Dans Matthieu 11, 29, nous lisons « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » J'ai déjà eu l'occasion de prêcher sur le joug et la façon dont, n'est-ce pas, ces deux bœufs fonctionnent côte à côte. Il y a le bœuf expérimenté et l'apprenti. Et bien sûr, Jésus est le bœuf expérimenté. Et il nous invite à nous placer sous le même joug et de marcher à côté de lui. D'apprendre de lui, dit « Regarde, prends le rythme de mes pas, marche avec moi, ne sois pas désuni dans ce que tu fais. » Et vous comprenez, n'est-ce pas, que dans cette solitude, eh bien, mon alter ego est celui à qui je pose des questions et qui me répond. Il est mon ami, il est ce moi qui est en moi, à qui je peux parler et qui me répond. Il est celui qui m'apprend les choses. Et nous marchons côte à côte. Il n'est pas devant. Il n'est pas en avant. Il est à côté de moi. Il me soutient et il m'apprend à marcher dans ses pas. Cette solitude-là, n'est-ce pas, n'est pas à fuir. Elle est à rechercher au contraire. Aujourd'hui, l'humanité a peur du silence. Parce que le silence nous révèle qui nous sommes. Or, les hommes ne veulent pas qu'on leur dise qui ils sont. C'est pourquoi ils mettent des casques sur la tête aujourd'hui. Vous les voyez partout dans la rue avec des casques. De cette façon-là, eh bien, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans leurs oreilles. S'ils ont besoin d'avoir un message positif, eh bien, ils vont aller le chercher sur un disque dur ou autre chose. La solitude qu'il nous faut trouver est en Christ. Il s'agit pour nous de bien vivre avec nous-mêmes. Et il faut pour cela que ce nous-mêmes soit au-dessus de tout soupçon. Jésus était sans doute l'homme le plus seul que la terre ait porté. Mais il n'a jamais souffert d'être seul. Même lorsqu'il a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'a jamais souffert d'être seul. Dans Jean 16, 32, Jésus dit « Voici l'heure vient. » Et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jésus n'avait pas besoin de mettre un casque sur ses oreilles pour oublier. Au contraire, il recherchait les moments pour être seul. Ce qui faisait souffrir Jésus, c'était Radio Jérusalem ou Radio Nazareth, n'est-ce pas? Tous ces bruits-là autour de lui, auxquels il était particulièrement sensible, parce qu'à l'intérieur, tout était propre, tout était pur. Jésus recherchait l'isolement, non pas pour ne rien faire, ou pour souffler, ou pour se calmer, mais parce que cet isolement lui permettait de se retrouver avec lui-même. Or, lui-même, c'était l'autre moi. C'était cet ami, c'était la parole de son Père. Matthieu 14, 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Jean 6, 15, et sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus se nourrissait de la solitude. Son alimentation, c'était la solitude. Jésus avait poussé jusqu'à son maximum les limites du corps humain. Et il avait mis en pratique son propre enseignement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. À savoir que ce ne sont pas les aliments solides qui nourrissent, mais les aliments spirituels. Or, l'autre moi de Christ, cet alter ego, n'était autre que la volonté du Père qui répondait à toutes les questions qu'il pouvait se poser sur les choses qu'il devait faire ou ne pas faire. Et on a un exemple criant de cela dans l'évangile de Luc. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint traître. Ce que Jésus a fait là est directement lié à ce qu'il avait fait la nuit d'avant. Retrouver le Père, retrouver cet alter ego en lui sur la montagne, dans la solitude. N'est-ce pas? C'est à cause de cela que Jésus pouvait dire « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, ce qui me maintient en vie, c'est de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Quand on mange, c'est pour rester en vie. Eh bien, c'est ce que Jésus disait. Ma nourriture, ce qui me rend vivant, ce qui me garde en vie, c'est de m'alimenter de la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. De quoi est faite notre solitude? De quoi sont composés nos espaces, nos lieux de solitude. Dieu veut que dans notre solitude, nous soyons unis intimement à lui. Jésus a prié le Père pour que notre solitude soit comblée par la présence du Père. Pour que les choix moraux que nous avons à faire dans la vie soient des choix qui sont justes. Dans Jean 17, verset 3, nous lisons que la connaissance, que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça, la vie éternelle. Et c'est donc pour que nous soyons dans une relation intime avec Dieu que Jésus a prié. Il a prié pour que notre vie éternelle soit l'enjeu même de notre relation et notre interaction avec le Père. Et que ce soit là, dans ces moments-là, dans ce lieu que les choses se passent, dans cette intimité. C'est pour cela que Jésus a prié. Jésus a aussi prié le Père pour que nous soyons unis avec lui. Pour quel choix moral? Pour qu'au travers de l'unité des enfants de Dieu, nous soyons un exemple pour le monde. N'est-ce pas, Jean 17, 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'apôtre Paul avait bien compris ce principe aussi. Pour Paul, l'autre moi, c'était Christ en nous. Nous vivons sous le regard de ce nouveau moi qui veut interagir avec nous en permanence. Dans Galates 2:20, n'est-ce pas, Norman répète ce verset très souvent, mais c'est un verset de la parole de Dieu. Ce n'est pas le verset de Norman Meaton. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi du Fils de Dieu. Pas dans ma foi. Quelle est ma foi? Ma foi, c'est le résultat de l'interaction avec cet autre moi. Et si cet autre moi, c'est Christ, alors je vis dans sa foi. Galates 4:6, et parce que vous êtes fils ou fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie. Amen. Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Et si tu es fille, tu es aussi héritière. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Autrefois, cet alter ego était d'une autre nature, d'un autre royaume, d'un autre monde. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. J'aimerais ce matin simplement vous rappeler ce qu'est cette merveilleuse relation avec Dieu qui nous est offerte par le Saint-Esprit. Et nous n'avons pas à vivre des vies d'esclaves. Nous avons à vivre dans la dignité des fils et des filles de rois, des princes, ceux que Dieu a choisis pour faire partie de sa famille. Que le Seigneur vous bénisse.